Voilà, chers, nous continuons notre périple dans le thème, progression dans le thème de la prière. Donc chaque dimanche de ce mois, et puis les mardis aussi, hein, nous sommes dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on voit un peu, je crois qu'on avait mis ça sur les papiers, mais j'aimerais que l'on voit un peu la prière et son exaucement. Hein. La prière et son exaucement. Alors, bien sûr, hein, on entend un peu parfois, à droite ou à gauche, comment Dieu exauce les prières, que Dieu doit exaucer, que Dieu est obligé de... Et j'ai entendu ça cette semaine encore, quelque part. Hein. Mais la Bible nous parle de Jésus, nous parle, l'Écriture nous parle de la prière et de son exaucement. Et je crois que si nous voulons prier comme le Seigneur le veut, eh bien il est important pour nous que nous penchions aussi sur cela. Alors bien sûr, en une matinée, on n'aura pas le temps de parcourir ou de voir tout ce que la Bible enseigne sur l'exaucement des prières. Bon, ça c'est un très grand thème. Et d'ailleurs, tous les sujets de la Bible sont profonds et inépuisables, hein, parce que Dieu est infini. Et donc, on ne peut pas cerner tout ce qu'il est en une matinée, en quelques minutes, en quelques mois ou en une année. Mais on peut connaître, en tout cas, réellement ce qu'il enseigne, au moins sur beaucoup de choses. Et l'important ici est que nos cœurs puissent se soumettre à sa parole et obéir à sa parole. Donc nous voulons voir, alors on va pas prendre un texte en particulier, on va prendre plusieurs textes ce matin, mais nous voulons voir d'abord que Dieu promet l'exaucement de nos prières, des prières. Dieu promet d'exaucer, ou il promet l'exaucement des prières. Alors le commandement, on avait dit là au tout début que la prière est un commandement de Dieu. Hein, on le trouve avec beaucoup de verbes à l'infinitif, hein, ici où il est question de prier, de prier sans cesse. Nous sommes vraiment exhortés, c'est beaucoup d'exhortations à la prière, beaucoup de commandements à la prière dans l'Écriture, mais on voit aussi que avec ces commandements à prier, eh bien Dieu associe, Dieu attache la promesse de l'exaucement des prières. Alors vous pouvez regarder, je peux vous regarder dans Jérémie chapitre 29 par exemple, enfin, pas tous les regarder, mais Jérémie chapitre 29 et au verset 12, Jérémie 29 et au verset 12, il est dit, ça c'est un moment où Dieu parle qu'il délivrera son peuple qui est en captivité après que 70 années de captivité se seront écoulés. Il dit ici, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. D'accord. Donc Dieu promet, ici il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Dans, on va pas chercher tous, mais dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 33, il dit, 33, c'est juste à côté, donc on peut le regarder, celui-ci, hein, 33:3, il dit ici, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais vous voyez encore ici, invoque-moi, prie-moi et je te répondrai. Donc il ajoute une promesse à cela. On va dans les évangiles, Marc chapitre 11, verset 24. Jésus dit ceci, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Okay. Donc c'est quand même des promesses qui sont fortes, hein, des promesses d'exaucement très très claires. Hein, on peut pas passer à côté de cela. Donc Dieu veut que l'exaucement soit que ses enfants soient certains qu'il exaucera leurs prières. Il veut même que l'exaucement des prières contribue à la joie de ses enfants. Et en Jean chapitre 16, verset 24, je vous lis, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et donc on voit ici qu'il dit que ses enfants connaîtront une joie parfaite quand ils verront leur prière aussi exaucée. Et donc, on avait vu ce passage il y a quelque temps, mais en Matthieu 7 à 11, vous vous rappelez de ce passage où Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et donc, ici encore, on voit bien hein, cette promesse d'exaucement attaché à la prière. Le succès, le résultat est mis en évidence ici, hein, à quelque stade que ce soit. Hein, il dit que l'on cherche, que l'on demande, que l'on frappe. Il dit, Jésus garantit hein, qu'il y aura une réponse. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Etc. Et concernant ce passage, hein, le théologien Jean Calvin disait ceci. Il disait, bien que tous connaissent qu'il faut obéir et faire ce que Dieu ordonne, il parlait de la prière, Dieu demande de frapper, de prier, il dit, tout le monde sait qu'il faut le faire et qu'il faut obéir. Il dit, le plus grand nombre, cependant, reculerait quand il les appelle s'il ne leur promettait pas de se laisser fléchir par la prière et même de venir au devant d'eux pour les recevoir. Il dit, c'est pour que l'enfant de Dieu s'approche. Dieu sortit son commandement à la prière d'une promesse. Et Calvin dit que on n'est pas mu par la simple connaissance qu'il faut obéir à Dieu. Hein. On sait qu'il faut le faire, on sait qu'il le demande, on sait qu'il le commande. Mais des fois, on peut être retenu. Et Dieu ajoute des promesses pour nous montrer qu'il y a un bénéfice à obéir à sa parole. Et tout à l'heure, le frère a lu ce passage dans 2 Chroniques 23, verset 13, concernant Manassé, qui a prié, et le texte dit, voyez que Dieu s'est laissé fléchir, et il a exaucé la prière. Et Dieu il dit, venez, je me laisserai fléchir. Hein, donc, il promet qu'il répondra à la prière. Donc, la prière, telle que Jésus l'enseigne, ne s'inscrit pas dans un vide ou dans l'incertitude. Hein. Il ne peut être vain de demander à Dieu ou de chercher ou de frapper. Ces choses, dit Jésus, ne peuvent pas rester stériles. Donc, il garantit qu'il y aura des résultats. On a lu déjà Jérémie 29, 12, « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » L'apôtre Paul, lui, était certain que les prières des saints à son égard trouveraient un exaucement de la part de Dieu. Il dit aux Philippiens, par exemple, hein, qu'importe de toute, il parlait de ceux qui lui veulent lui faire du tort, il dit qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Il dit, je m'en réjouis encore, car je sais, il dit que toutes les circonstances qui entourent, son emprisonnement à Rome, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, il avait la certitude que Dieu entend la prière de ses frères et que Dieu va exaucer même cette prière pour la gloire de son nom et pour le bien de son enfant. Donc, c'est une promesse qui est permanente. Hein, si on lit le passage de Matthieu 7, il dit « Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ce n'est pas comme si Jésus disait, ça a existé, il y eut un temps où on donnait à celui qui demande, on ouvrait à celui qui frappe, etc. Non, il dit, c'est quelque chose qui est encore permanent. Il en a été ainsi dans le passé, il en est ainsi dans le présent, et il en sera encore ainsi. Celui qui demande reçoit. Hein. Celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Il est celui qui écoute, hein, le psalmiste le dit, la prière. Aux trois qui écoutent la prière, tous les hommes viendront à trois. Et personne ne peut dire, moi je me suis approché de Dieu, j'ai prié, mais il ne m'a il ne m'a pas écouté. J'ai demandé ce qu'il me sauve et il ne m'a pas sauvé. Et c'est Spurgeon qui disait ceci, il dit « Je ne crois pas qu'il se trouve parmi les damnés de l'enfer une seule âme pour oser dire « J'ai cherché le Seigneur et il m'a rejeté ». Personne ne peut dire cela. Au jour où il faudra rendre compte, pas une seule âme ne pourra dire « J'ai frappé à la porte de la miséricorde, mais Dieu a refusé de l'ouvrir ». Dieu dit « Celui qui frappe en lui ou celui qui demande ». Il lui sera donné, il recevra. Donc c'est une vérité, c'est une promesse qui demeure permanente pour ceux qui s'approchent de Dieu. Et puis aussi, on peut noter dans ce passage de Matthieu 7 cette assurance de l'exaucement est pour tous. Il dit « quiconque ». Il dit « attention, c'est seulement pour une catégorie de personnes ». Il dit « quiconque ». Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, pas la peine d'avancer sa timidité. Moi, je suis timide, je peux pas demander, ou sa jeunesse dans la foi, ou son manque de vocabulaire spirituel, etc. Parce que le Seigneur dit, quiconque, quiconque lui appartient, bien sûr, quiconque est son enfant, bien sûr, quiconque demande de la sorte, eh bien, il reçoit. Donc, Dieu promet vraiment d'exaucer les prières. Et on pourrait lire partout dans l'Écriture, on le voit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, il dit, je l'exaucerai des cieux et j'effacerai son péché. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner. Dieu est disposé, donc, à exaucer la prière de ses enfants. Et ça, c'est une chose qui doit nous remplir de joie et de reconnaissance. Mais deuxièmement, on voit que Dieu pose des conditions néanmoins à l'exaucement des prières. Dieu pose des conditions à l'exaucement des prières. On pourrait croire qu'il suffit de prononcer des prières pour être exaucé automatiquement. Et on trouve parfois des gens qui distribuent des prières. Parfois, il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit « Oui, j'ai reçu un certain nombre de prières que je peux faire. » On m'a donné une petite liste de prières. Donc, quand tu as peur, tu fais cette prière-là. Quand tu es dans telle situation, tu fais cette prière-là, etc. C'est comme si, voilà, c'était quelque chose d'automatique. Il suffit que tu prononces les mots. C'est-à-dire que, là, on suppose que l'exaucement est dans le fait simplement de prononcer une formule. Le fait d'avoir dit tel mot précisément fait que Dieu va répondre. Mais, quand on lit l'Écriture, on voit qu'il n'en est pas ainsi, on peut prononcer des phrases qui sont de belles phrases, on peut prononcer des choses qui sont des vérités bibliques, mais il ne suffit pas de dire des mots ou de prononcer des mots pour que Dieu exauce la prière. La puissance de la prière n'est pas dans la formulation, la simple formulation des choses. Quelles sont donc les conditions que Dieu pose? Alors, on peut en trouver plusieurs au travers de l'Écriture, mais regardez en 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous lisons ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On pourrait dire que une condition ici, c'est l'accord avec la volonté de Dieu. L'accord avec la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tout ce que l'on demande à Dieu selon sa volonté, il nous écoute. Et cette volonté, on la trouve dans sa parole, n'est-ce pas ? On peut connaître la volonté de Dieu à travers sa parole. C'est pour cela qu'il est important de lire sa parole. Mais en tout cas, on voit ici, et dans plusieurs autres endroits, que Dieu exauce les prières qui sont faites selon sa volonté. Et le Seigneur Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, quand il a prié, quand il a dit, sous la pression de la croix qui arrivait, il a dit, « Père, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi », et puis il a ajouté, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et plus tard dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il a été exaucé, hein. Il a crié à celui qui pouvait, avec larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé, là, l'Épître aux Hébreux dit, à cause de sa piété. Donc, prier en accord avec la volonté de Dieu. Parfois, on connaît la volonté de Dieu, mais on peut prier contre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui disent, ouais, je sais que ça, c'est la volonté de Dieu, mais je vais prier quand même dans ce sens. Qui sait si Dieu... Non, Dieu ne change pas sa volonté quand il l'a exprimée et qu'elle est révélée. Quand il dit qu'on doit se détourner du mal, par exemple, je prends un exemple simple, hein, s'il dit qu'on ne doit pas s'associer en tant que chrétien avec, se marier avec un inconverti, c'est pas la peine de prier pour qu'il accepte cela. Sa volonté est déjà écrite, c'est non. Et celui qui prie dans ce sens, eh bien, Dieu n'écoute même pas, parce que sa prière n'est pas selon la volonté de Dieu. Donc quand la volonté de Dieu, elle est exprimée clairement, elle est connue, et que nous prions dans un sens où on demande à Dieu, voilà, de faire une entorse, quelque part, à sa volonté, eh bien, cette condition, on est certain que Dieu n'exaucera pas une telle prière. En tout cas, il ne l'exaucera pas pour notre bénédiction. Une autre chose que l'on peut voir concernant les conditions que Dieu pose, c'est l'accord avec sa parole aussi, hein, sa volonté, mais sa parole même. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela, dit-il, vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Ici, on a l'image plutôt de Jean 15. Dans Jean 15, c'est les cèpes et les sarments. Hein. Le sarment qui doit rester attaché au cep pour qu'il puisse porter du fruit. Et donc, il faut rester attaché au Seigneur dans la communion avec lui. Cette communion se fait dans la parole de Dieu. C'est là que nous apprenons à le connaître. C'est là que nous savons ses commandements. C'est là que nous cherchons à obéir à ses commandements. Et donc... Ici, hein, il dit que la condition à l'exaucement, l'apôtre Jean dit que la condition à l'exaucement est l'accord avec la parole, de la communion avec Dieu dans sa parole. Puis on pourrait trouver aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses concernant, mais on peut le prendre aussi de manière négative, hein, ces conditions que Dieu pose à la parole. Parfois, l'Écriture montre quels sont les obstacles à l'exaucement. Donc, ne pas faire la volonté de Dieu, c'est un obstacle aussi. Hein, ne pas être en accord avec la parole de Dieu, c'est un obstacle. Mais de manière plus générale, la Bible pose le péché comme le principal obstacle à l'exaucement de nos prières. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une... séparation entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous voyez, ici il dit que le péché même cache la face de Dieu. Parfois, on entend des personnes qui disent, je sais que je ne vis pas comme je devrais vivre. Je sais même que je vis dans le péché. Mais, voilà, je vois la main de Dieu qui fait ceci ou la face de Dieu. La Bible dit que Dieu cache sa face lorsque on vit résolument dans le péché. Donc le péché conscient et non confessé est un obstacle à l'exaucement de la prière. Bien sûr, nous l'avons dit ce matin, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin à chaque fois de confesser nos péchés, de venir à Dieu pour confesser nos péchés. Donc Dieu, ça ne veut pas dire que de manière, Dieu n'écoute aucun pécheur. Parce que sinon, il n'écouterait personne. Il n'y a aucun homme qui l'écouterait, à part Jésus-Christ, qui est le seul homme qui a vécu sans péché. Mais ici, il est question de celui qui vit, qui pratique le péché, qui est conscient de son péché et qui ne se confesse pas, qui ne confesse pas ses péchés. Eh bien, il dit, celui-là, eh bien, sa prière devient, pendant sa vie, son péché est un obstacle à l'exaucement de ses prières. Le psalmiste dit en psaume 66, verset 18, il dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucer. Le péché est une chose à prendre vraiment très, très au sérieux. Il dresse une barrière entre Dieu et nous. Et c'est pour cela que beaucoup de prières dans l'Écriture comportent une part de confession. Si vous lisez, on a lu ce matin la prière de Daniel. Il y a une longue part de confession des péchés. Vous ne savez pas si vous avez été attentif à cela. Il s'approche de Dieu, il commence par louer Dieu pour sa grandeur, sa miséricorde, et puis tout de suite, il confesse les péchés. Parce qu'il sait que le péché est un obstacle même à la prière. Vous lisez la même chose dans Néhémie, Néhémie chapitre 1, verset 6. Il confesse, s'approche de Dieu, et il confesse ses péchés et les péchés du peuple. Donc on peut dire que le péché est un véritable obstacle. Et donc c'est une condition qu'il faut absolument écarter, enfin, c'est une situation qu'il faut écarter si nous voulons être exaucés par Dieu. Mais le péché se manifeste de différentes manières, et donc les obstacles à la prière se manifestent aussi de différentes manières. La Bible dit que nos mauvaises motivations, par exemple, sont un obstacle à la prière. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut demander des choses à Dieu, mais avec de mauvaises motivations, pour nous, pour satisfaire nos passions. Et Jacques dit, vous ne recevez pas à cause de cela. Les mauvaises motivations sont un obstacle à l'exaucement des prières et la prière. Le refus de se soumettre à la loi de Dieu, par exemple. Proverbe 28, 9 dit ceci, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Ça, c'est très fort, hein, ici. Il dit, quand on bouche les oreilles pour ne pas entendre ce que la parole de Dieu dit, mais quand on prétend prier Dieu, il dit que la prière elle-même, il parle pas encore de l'exaucement, on n'est pas encore là. Il dit, le seul fait de prier même est une abomination. Le seul fait de prier est une abomination. Donc il est parfois des situations où on connaît la volonté de Dieu vraiment exprimée dans sa parole. On me l'a dit tout à l'heure, on veut prendre parfois des chemins contraires, on ne veut pas écouter cette parole-là, mais que l'on sache ce que la Bible dit. Il dit que ce que nous prononçons de notre bouche dans la prière devient une abomination du point de vue de Dieu. Il n'écoute même pas. On n'a pas le temps de lire tous ces passages, mais il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu dit, quand vous priez, je n'écoute même pas. Pourtant, la Bible dit qu'il est celui qui écoute les prières. Mais ça veut dire qu'il y a des conditions, des situations, des circonstances dans lesquelles il n'écoute même pas nos prières. Et particulièrement, cela, si nous refusons de nous soumettre à sa loi, sa parole, nous détournons l'oreille pour ne pas écouter sa parole, eh bien, lui ne nous écoute pas. La qualité des relations conjugales, ça on n'y penserait pas peut-être ici, mais l'apôtre Pierre dit ceci, il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. » Et ici quand il dit de la sagesse, c'est-à-dire de la compréhension, de la connaissance, il dit « Agissez avec elle avec connaissance, connaissant qui elle est, connaissant sa nature, connaissant sa qualité de femme, c'est pas, vous allez pas vous battre avec elle, hein, ses particularités, connaissant ses émotions, la connaissant, c'est-à-dire vous avez une connaissance d'elle, il faut agir en fonction de cela. Et il dit, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et il dit, il faut qu'il en soit ainsi dans votre couple, écoutez ce qu'il ajoute, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prière. Ça veut dire que la qualité de la relation, si je suis violent, colérique envers mon épouse, et ça va dans l'autre sens aussi, bien sûr, hein, ou l'épouse envers la femme, etc., les relations sont conflictuelles, il dit que cela constitue un obstacle à la prière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois d'abord régler cette situation avant de pouvoir être entendu par le Seigneur. C'est quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important. La qualité des relations que l'on entretient avec son conjoint eh bien, peut être un obstacle à la prière. Les relations fraternelles, on pourrait s'étendre beaucoup là-dessus, mais la Bible parle des relations que l'on a les uns avec les autres et du fait que la prière peut, la qualité de ces relations peut être aussi un obstacle à la prière. Dans le domaine du pardon, par exemple, hein, Matthieu, Marc 11, verset 25-26 dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici. Et vous connaissez ce passage où il dit, si tu vas, tu portes ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dis, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc là, la qualité des relations qu'on entretient en tant qu'enfant de Dieu, les uns avec les autres, peut être aussi un obstacle à la prière. Quand on refuse de pardonner à quelqu'un, on ne peut pas prétendre venir et prier Dieu et être exaucé. Il dit que ça crée un obstacle. Quand vous êtes debout, vous faites votre prière, eh bien, il dit, pardonnez-vous. Et Jésus disait la même chose dans Matthieu. Quand on prie, on pense à la relation qu'on a avec les autres. S'il y a quelque chose à régler, il faut le régler, parce que cela constitue un obstacle. On pourrait parler des idoles dans le cœur dont il est question dans Ézéchiel et toutes ces choses. Donc, c'est important. On voit bien, oui, Dieu promet d'exaucer la prière dans l'Écriture, mais aussi il met des conditions à l'exaucement des prières. Et il est important que nous étudions ces choses et que nous travaillons à enlever tout ce qui crée un obstacle. S'il nous dit que telle chose crée un obstacle, il est de notre devoir de faire tout pour enlever cet obstacle, afin que la communion avec lui puisse être retrouvée. Parce que dans la prière, je suis en communion avec Dieu. Et si je ne suis pas en communion avec mon frère, eh bien, de mon fait, hein, et je n'ai pas réglé les choses, eh bien, je ne peux pas dire que je suis en communion avec mon frère. La parole dit, comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère que je vois? C'est pas possible, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait des relations qui soient saines. En tout cas, il faut que de notre côté, nous ayons fait tous les efforts pour régler les choses qui doivent être réglées. Si nous voulons être exaucé par Dieu. Mais troisièmement, le dernier point que je vais soulever, c'est que Dieu est souverain dans la manière de l'exaucement. Dieu est souverain dans la manière de l'exaucement. Dieu est souverain sur le, on pourrait dire, sur le timing, sur le temps. Ouais. Dieu répond au moment favorable à la prière. Alors parfois, Dieu répond rapidement. Mais ça n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Il répond toujours, en tout cas, au moment favorable. Hébreux 4:16 dit, dans la version Darby, il est dit comme ça, « Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde, on en a parlé encore ce matin, hein, miséricorde, et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. » C'est-à-dire que Dieu nous fait grâce, et la Bible ajoute « au moment opportun ». Donc, il est souverain sur le moment lequel il va exaucer la prière. Il répond parfois de manière immédiate, très vite. On peut, par exemple, pensez à l'exemple de Moïse qui prie parce que il y a le feu qui commence à cause de la désobéissance à ravager le peuple. Moïse prie Dieu et le feu s'arrête. D'accord? Mais il arrive même aussi que Dieu réponde avant que la prière soit terminée. Il y a un psaume qui dit, Ésaïe 66:16 dit ceci, je vais vous lire, hein. Il dit, par exemple, Ésaïe 66, non, je ne sais plus, c'est 64, je crois. Ésaïe 64, c'est ça. Ah non, je ne retrouve pas, désolé. Où il dit qu'il, qu'il exauce avant même qu'il ait prié, avant même que vous ayez prié, je vous exaucerai. Mais c'est pas grave, si je le retrouve, je vais vous le montrer après. Mais on a une illustration de cela pas si vous vous rappelez, lorsque le serviteur d'Abraham va chercher une femme pour le fils d'Abraham, pour Isaac. Dans Genèse chapitre 24, ça vous pouvez regarder, Genèse chapitre 24, verset 12. Genèse 24, verset 12, il dit ceci. Il ne sait pas quelle femme il va arriver, il ne connaît pas, il ne sait pas quelle femme il doit choisir pour le fils de son maître. Et donc il prie Dieu pour que Dieu le guide dans cette situation. Donc Genèse chapitre 24 et verset 12. Il dit Éternel. Alors, il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et il dit, il n'a pas encore fini. Et c'est Eliezer, hein, quand il raconte ça, lui plus tard, aux parents de Rebecca, il dit, verset 45, regardez comment il le dit ici, il dit, avant que j'ai fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Il y a des moments où Dieu répond tout de suite après la prière, mais il y a des moments où même il a déjà anticipé et il a déjà apporté une exhortation à la prière, parce qu'il est souverain dans la manière de répondre à la prière. Mais il y a des moments aussi où il fait attendre longtemps, très 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 longtemps. C'était le cas de Zacharie et Élisabeth. Vous vous souvenez, les parents de Jean-Baptiste, qui avaient prié Dieu pour avoir un enfant, des enfants, certainement. Ils ont dû prier à partir du moment où ils se sont mariés. Et la Bible dit qu'ils étaient fort avancés en âge. D'accord? Très, très vieux. Zacharie est choisi pour aller porter, pour aller présenter les prières dans le temple ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il a un ange qui vient, qui le voit et puis qui lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Alors, certainement, il priait aussi pour la délivrance d'Israël, tout ça. Mais je crois aussi que dans ce que l'ange dit ici, il est question de... Parce qu'il dit, ta femme deviendra enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et comme certaines personnes disent, peut-être que Zacharie ne pensait même plus à ça. Quand on est avancé en âge, on dit... Parce qu'après, il dit, comment est-ce que de telles choses peuvent se faire hein? Ils sont tous les deux avancés en âge. Il y a des fois où Dieu répond très longtemps après. Il y a des fois où il répond avec un délai plus court que cela, mais quand même en y mettant du temps. Parce que Dieu est souverain, je crois, sur la manière d'exaucer les prières. Il est souverain sur le temps de l'exaucement, sur l'heure même de l'exaucement. Mais aussi, il est souverain dans la manière de l'exaucement, dans ce qu'il donne même comme exaucement. Il faut reconnaître que l'exaucement d'une prière ne se fait pas toujours par l'accomplissement strict de la chose que nous avons demandée. Il peut arriver que Dieu réponde en donnant exactement ce qui a été formulé. Par exemple, Élie dit, prie pour qu'il pleuve, et Dieu donne de la pluie. D'accord? Mais il se peut aussi que, dans sa souveraineté, Dieu réponde par autre chose que par ce qui a été formulée par les lèvres. Par exemple, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » C'est des prières et on fait connaître nos besoins. « Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un logement. J'ai besoin peut-être d'une guérison dans mon corps. J'ai besoin... » Et il dit « Faites connaître à Dieu toutes ces choses par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il dit pas ici, l'apôtre Paul ne dit pas, et Dieu vous donnera exactement ce que vous avez formulé. Il dit, formulez tout ce dont vous avez besoin. Dites-le à Dieu. Mais il promet une chose, c'est que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Si Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que ce dont nous avons besoin, quand nous demandons telle ou telle ou telle chose, c'est sa paix, il nous accordera ce qu'il y a de meilleur. Sa paix. Et on peut avoir on a un excellent exemple dans la vie de l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul, rappelez-vous, et il parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 12, et il a été, et c'est un homme qui a eu une expérience extraordinaire, une vision, il dit qu'il a été élevé, il ne sait même plus où, si c'était dans son corps ou hors de son corps, il a eu une vision extraordinaire, il a entendu, vu des choses qu'il n'est pas permis aux hommes d'entendre. Et il dit, à cause de cela, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans ma chair. Mais on pense que c'est peut-être dans ses yeux, dans sa vue, parce que dans Galates, et puis c'était peut-être quelque chose de repoussant, parce que dans Galates, il en parle comme quelque chose qui pouvait repousser les autres, ici. Et il dit qu'il a prié Dieu, il appelle ça un ange de Satan, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit, trois fois, j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi. La formulation exacte de sa prière, c'est « Éloigne de moi, s'il te plaît, Seigneur, cet écharde. » On peut supposer, je ne dis pas qu'il a dit exactement ces mots-là, mais c'est le besoin qu'il exprime. Est-ce que Dieu a répondu à cela précisément? Non. Dieu n'a pas éloigné l'écharde de sa chair. Mais Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Est-ce que Dieu a exaucé à sa prière? Oui. Est-ce que Dieu lui a donné exactement ce qu'il a demandé, qu'il a formulé? Non. Parce que Dieu est souverain dans la manière dont il répond à la prière, la manière dont il exauce. Certainement, l'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui s'amusait, qui jouait, il cherchait pas des choses pour lui-même. Certainement, cette écharde était un handicap du point de vue humain, dans son ministère même. Peut-être dans la puissance qu'il pourrait avoir dans son ministère. Et peut-être qu'il dit, Seigneur, si je n'ai pas cela dans ma chair, je peux faire beaucoup plus. Je peux faire beaucoup plus pour toi. Peut-être qu'il y avait des choses comme ça. Donc, la motivation même de sa prière, c'est qu'il puisse servir Dieu avec plus de puissance. Et à cela, Dieu a répondu. Parce que Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, peut-être qu'il avait besoin de plus de puissance pour œuvrer pour Dieu. Mais Dieu lui donne plus de puissance, mais au sein même de sa faiblesse. Et dans ce sens, Dieu a exaucé sa prière. Donc, Dieu, dans sa grâce, sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il dit, demandez, c'est pour ça qu'il dit, n'hésitez pas, demandez tout ce, avec action de grâce, supplication, demandez. Mais il se réserve le droit parce qu'il est sage. Parce qu'il est saint, parce qu'il est plein d'amour, parce qu'il est miséricordieux, de nous répondre en nous donnant ce qu'il y aura de meilleur pour nous. Nous pouvons prier Dieu pour qu'il nous donne une épouse ou un époux. Peut-être parce qu'on se sent seul. Mais Dieu peut répondre, peut exaucer la prière en comblant notre solitude autrement que par quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut qu'on soit prêt à recevoir l'exaucement de Dieu tel que il veut nous le donner. Et puis, je veux dire aussi ceci, c'est que Dieu, dans sa manière souveraine d'exaucer la prière, peut exaucer même, et l'exaucement est un jugement. Il arrive que Dieu exauce une prière qui n'est pas selon sa volonté et il l'utilise comme un jugement pour nous. Et on a des exemples de cela dans la Bible. Le peuple d'Israël, souvenez-vous du peuple d'Israël. Quand il est dans le désert et puis il commence à, Nombre chapitre 11, à dire « Ah, pourquoi ne sommes-nous plus en Égypte ? On avait là-bas de la viande à manger. Dieu leur donnait de la manne. Ils ont dit que la manne, j'en ai assez de cette manne. » Ils appelaient ça, après, à un moment donné, ils appelaient ça la misérable nourriture. Ils disent « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et Dieu parle à Moïse, et puis Dieu dit à Moïse, je leur donnerai de la viande à manger. Mais j'aimerais lire comment Dieu dit ça. Il dit, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré, Moïse dit, aux oreilles de l'Éternel. Donc Dieu exauce la prière. Vous voulez de la viande? Eh bien voilà, vous avez de la viande. Il exauce cette prière. Vous avez dit, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce que qu'elle sorte par les narines, par vos narines, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Il dit, vous voulez de la viande, vous en aurez. Vous en aurez sur une journée de marche à droite, une journée de marche à gauche, et sur, je ne sais pas quelle hauteur, je crois qu'une hauteur d'à peu près 50 cm. Vous imaginez l'épaisseur de viande qu'il y a, de la viande à ne plus en finir, des millions et des millions de cailles. Vous allez en manger non pas un jour, 2 jours, 10, 1 mois entier. Vous en aurez du dégoût. Et il utilise l'exaucement comme un jugement ici. Et Dieu peut exaucer des prières et les utiliser comme un jugement. Il a fait la même chose avec le peuple d'Israël quand ils ont demandé un roi à Saül. Vous voyez, ah, nous voulons un roi comme toutes les autres nations. Il y en a chez eux. Nous voulons aussi un roi. Samuel leur dit, mais attends, voilà ce que va faire le roi. Ah oui, d'accord, mais nous voulons un roi. Et à un moment donné, Samuel leur dit ceci. Il leur dit ici, j'invoquerai l'Éternel. Et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Et aux yeux de Dieu, vous avez eu tort de faire cette prière. Mais Dieu a exaucé la prière et il va vous juger avec. Et ça a été une rude épreuve pour eux. Dieu utilise parfois l'exaucement de nos prières comme un jugement pour nous. Comme un jugement pour nous. On parlait tout à l'heure de Manassé. Manassé, c'était le fils d'Ézéchias. Dieu avait dit à Ézéchias, prépare tes affaires parce que tu vas mourir. Ézéchias prie, pleure devant Dieu. Et Dieu rajoute 15 années à sa vie. 15 années au cours duquel Manassé naît. Il n'y avait pas Manassé avant. Okay. Et Manassé est un roi, on l'a lu tout à l'heure, le frère l'a lu. Hein. Bien sûr, il a prié Dieu. Mais c'était un roi méchant. Terrible, terrible. Hein? Parfois, voilà, on demande des choses à Dieu, Dieu accorde, et puis après, même Ézéchias, après lui-même, il a été rempli d'orgueil, hein? Et puis il a ouvert les trésors, il a montré à des étrangers, etc. Oui. Et j'écoutais un message d'un frère dans une autre église qui citait l'exemple de quelqu'un, une femme qui voulait épouser un inconverti. On prend toujours souvent ces exemples-là parce que bon, ben c'est des exemples qui nous concernent souvent. Hein. Et elle savait que c'était pas la volonté de Dieu, mais elle priait, elle dit Dieu, je suis seul, quelqu'un qui s'intéresse à moi, voilà, etc. Pourquoi ce serait pas possible, etc. Et puis elle dit voilà, on va faire. Elle dit, écoute Seigneur, s'il neige demain, je prendrai cela comme un signe que je peux l'épouser. Et ce prédicateur dit que le lendemain, il a neigé. Et c'était pas un jour habituel où il y avait de la neige. Mais il a neigé le lendemain. Elle a pris ça comme la volonté de Dieu. Et elle a épousé c'est l'homme. Et ça s'est terminé en catastrophe, bien sûr. Dieu a exaucé sa prière parce qu'il a fait neiger, parce qu'il voulait qu'il neige. Tu veux qu'il y ait de la neige? Tu veux de la neige. Il y a de la neige. Fais ce que tu veux faire. Fais-le. Fais-le. Dieu exauce comme ça. Il dit, vous avez la parole, d'accord? Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'autre chose pour savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Maintenant, je prie Dieu, montre-moi un signe. Il va te le donner, il va te le donner. Mais c'est ton interprétation que parce qu'il t'a donné ce signe, c'est ce que tu dois faire et que c'est dans sa volonté. Ça, c'est ta théologie à toi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible est claire là-dessus. Il y a des moments où Dieu fait comme cela, dans sa souveraineté. Il utilise même l'exaucement de nos prières comme un jugement. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Oui, Dieu fait la promesse qu'il va nous exaucer. C'est son désir le plus profond d'exaucer ses enfants. C'est même son désir que ses enfants soient dans la joie quand ils voient l'exaucement de leur prière. Et quelle joie, n'est-ce pas, quand on a prié selon la volonté de Dieu pour une chose et qu'on voit cette chose se réaliser. Mais il dit qu'il met des... La Bible nous montre que Dieu met des conditions aussi à cela. Prier selon la volonté de Dieu, prier en accord avec la parole de Dieu, nous éloigner de tout ce qui crée un obstacle à la prière, arranger nos relations dans notre foyer, avec nos enfants, avec les frères et sœurs de l'Église. Il y a toutes ces choses peuvent être des obstacles à la prière. Et puis, savoir que Dieu est souverain dans sa manière d'exaucer les prières. Et le louer même pour cela. Il répond en son temps. Il nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parfois, il répond tout de suite. Parfois, il répond plus tard. Dans certaines fois, il nous donne autre chose. Il nous laisse dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais il répond toujours à ses enfants qui le prient comme ils doivent le faire. Parce qu'il a promis qu'il ouvre à celui qui frappe, qu'il donne à celui qui demande. Et il dit, votre Père Céleste veut donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Oui, Dieu exauce, mais Dieu exauce en Dieu souverain, en Dieu plein d'amour, en Dieu miséricordieux et en Dieu saint, qui a horreur du péché. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à lui demander avec joie, mais en étant obéissant dans chaque domaine de notre vie. Prions.